bien déchiffré, décortiqué, décodé. Voici Jean-Luc Mongrain.
L'Organisation mondiale de la santé, située en Suisse, fait une déclaration qui dit que le monde ne reviendra pas à la normale dans un avenir prévisible. On va en discuter avec la docteure Rosamund Lewis, qui est médecin spécialiste en santé publique du programme des urgences sanitaires à l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour, docteur.
Bonjour, Jean-Luc.
Dites-moi, lorsque l'OMS arrive avec une déclaration comme celle-là, c'est qu'il y a sous-jacent à cette déclaration une étude fondamentale qui dit de la façon dont la planète se comporte présentement, nous en avons encore pour très longtemps.
Il s'agit effectivement d'une appréciation de l'avancée de l'épidémie depuis 6 mois, parce que ça fait maintenant plus que 6 mois que nous sommes tous ensemble là-dedans, et les expériences de différents pays. Donc, il y a différents pays qui ont abordé la situation de différentes manières, et nous voyons un peu le résultat. Mais dans l'ensemble, à l'échelle de la planète, nous sommes encore très loin d'avoir, de pouvoir arrêter complètement cette épidémie.
Je suis très contente d'avoir cet échange avec vous, parce que les statistiques, c'est une chose, mais les décisions erratiques, les allers-retours, les valses hésitations de la part des différentes autorités à travers le monde viennent contribuer à votre décision. Parce que dans le fond, si on regarde ça, il y a 500 000 de décès, ou à peu près, sur 7 milliards de personnes. C'est un argument qu'utilisent évidemment les négationnistes de la situation pandémique. Alors donc, vous, c'est un combiné de la statistique et du comportement des gestionnaires locaux.
C'est pas juste les gestionnaires, hein. Soyons clairs, on a tous un rôle là-dedans. C'est le rôle de chacun d'entre nous de contribuer à la situation et à la maîtrise de la situation dans son environnement local. Et la situation, c'est pas uniquement les effets de la pandémie elle-même, mais les effets justement des mesures mises en place. Donc le fait que les gens perdent leur travail ou que les magasins doivent fermer ou que les bars doivent fermer. Ça entrave ce que les gens attendent de leur vie quotidienne, et donc ça nous amène chacun entre nous à peser, mesurer la situation autour de nous et mesurer les risques et essayer d'agir en conséquence, mais en adoptant des comportements qui nous permettent d'aller de l'avant et de gérer la situation autant en maladie infectieuse que la situation économique autour de nous. Donc, ça revient aux leaders des pays, effectivement, mais ça revient aussi à chacun d'entre nous.
À chacun d'entre nous, mais même l'Organisation mondiale de la santé a été pointée du doigt sur les délais décisionnels en rapport avec l'information à distribuer un peu partout à travers le monde. Et donc, ça, évidemment, ça pourrait peut-être contribuer à cette valse hésitation qui se font de façon plus locale dans les décisions à prendre pour contrer la pandémie.
Vous savez, effectivement, c'est un nouveau virus, une nouvelle maladie, et nous sommes en train d'apprendre tous les jours. Donc, c'est tout à fait normal que les agences de santé publique, autant au niveau mondial qu'au niveau national et local même, doivent encore apprendre et peser et avancer avec assez de rapidité pour essayer de prendre cette épidémie en main, mais aussi sur les bases d'évidence, sur les bases de la science qui avance tous les jours. Parce que maintenant, nous avons appris plein de choses que nous ne savions pas avant. Donc, par exemple, nous avions appris maintenant que ce qui n'est pas pareil dans les autres coronavirus graves comme le MERS ou le SRAS, que pour celle-ci, cette nouvelle, les gens qui deviennent infectés sont les plus,
c'est quoi le nom,
plus infectieux 3 jours avant, jusqu'à 3 jours avant, et au jour du démarrage des symptômes. Donc, c'est pour ça que maintenant, il est recommandé de porter des masques par la majorité des pays, par la majorité des agences de santé publique, mais c'est une information que nous n'avions pas au début, parce qu'elle est différente de l'évolution de la maladie en SRAS, par exemple. Donc, on apprend tous les jours quelque chose. Les études, il y en a des centaines et des milliers d'études en cours, autant pour les vaccins que pour les traitements, mais aussi pour le déroulement de la maladie, l'efficacité des mesures de santé publique. Et donc, tous les jours, nous essayons aussi d'emmagasiner toutes ces informations-là et d'apporter pas seulement des solutions, c'est très important, mais des options. Donc, par exemple, c'est l'accumulation de plusieurs gestes barrières, de plusieurs actions de santé publique qui vont nous amener à pouvoir protéger les personnes âgées, les aînés, les personnes vulnérables, les personnes hospitalisées. Et donc, c'est un ensemble de gestes qui nous permettent de protéger et d'être ceux autour de nous et d'être vigilants. Parce que les différents pays, comme on a dit au départ, il y a différents pays qui ont abordé les choses de façon différente.
Oui.
Donc, par exemple, ils ont agi d'une façon très rapide, très précoce. On peut citer toujours la Nouvelle-Zélande, la Chine même. Donc, il y a plusieurs pays qui se trouvent dans cette catégorie-là et qui ont eu très peu de cas, très peu de décès et qui maintenant peuvent se permettre, pour les îles, c'est bien sûr plus facile, mais peuvent se permettre d'ouvrir leur économie d'une façon beaucoup plus large que les autres. D'autres pays qui ont eu une éclosion majeure, comme l'Iran, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne,
les États-Unis,
beaucoup de pays d'Europe. Oui, mais qui ont rapidement réagi pour maîtriser cette grosse éclosion qui a eu lieu. Et puis malheureusement, il y a certains pays qui, malgré, qui auraient peut-être pu bénéficier de l'expérience des autres, ils se sont sentis contraints d'ouvrir l'économie rapidement et peut-être trop rapidement, qui fait que maintenant, on voit des recrudescences. Donc, on n'attend pas forcément avoir une grosse deuxième vague. On ne sait pas si ça va arriver comme ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que dans les zones locales, il y aura des éclosions. Il y aura des éclosions liées à tout environnement où les gens sont pressés les uns contre les autres, on va dire ça comme ça, que ça soit... Que la densité des personnes dans plusieurs mètres carrés, que ce soit dans un bar ou dans un lieu de travail ou ailleurs, c'est là que le virus va trouver son chemin, il va trouver sa façon de se propager.
Dernier sujet, dernier volet de notre discussion. Est-ce que vous recevez toutes les informations de tous les groupes de recherche qui sont sur une médication potentielle ou un vaccin potentiel? Parce que ici, localement, il y a une entreprise qui aujourd'hui a annoncé qu'elle commençait à faire des tests sur des humains pour un vaccin qui serait peut-être avec un vaccin et un rappel un peu plus tard. Est-ce que vous avez toutes ces informations-là pour être capable d'informer sur un délai potentiel d'une découverte?
Oui, donc nous sommes au courant de plus de 120 vaccins candidats qui sont en état de recherche actuellement, dont plus d'une quinzaine qui sont déjà maintenant en cours de début d'essais cliniques, c'est-à-dire essais chez les personnes. Et en général, il y a un grand programme de coordination de la recherche. Donc, ce n'est pas l'OMS qui fait toute la recherche, on fait quelques études, mais en fait, notre rôle, c'est justement de faire exactement ce que vous dites, de coordonner les objectifs de recherche, que les chercheurs se parlent entre eux. Il y a eu une deuxième grande réunion de recherche il y a quelques jours, il y a eu la première au mois de février, où les chercheurs se parlent et échangent de l'information. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est que nous recevons, nous analysons toute la littérature qui sort, et comme il y a plusieurs milliers d'articles par jour maintenant, vous imaginez, c'est un travail assurant. C'est pas... il n'y a pas juste quelques personnes au bureau qui le font, mais pas mal de monde. Et donc, on analyse aussi toutes les publications scientifiques qui sont faites, mais également les publications scientifiques qui n'ont pas encore été revues par les pairs, qui n'ont pas encore été évaluées.
Mm-hmm.
Et donc, on prend ça avec des pincettes, mais on a quand même aussi ces informations de façon qui permet déjà de nous aider à nous orienter vers ce que, comme j'ai dit, les choses qu'on apprend tous les jours.
Pour fermer la boucle, si l'OMS dit qu'il n'y a pas, dans un avenir prévisible, le retour à une vie dite normale comme nous l'avions connue antérieurement, est-ce que vous avez un espoir de calendrier pour un médicament ou un vaccin?
C'est encore trop tôt pour dire. Pour les médicaments, il y a déjà eu deux découvertes qui sont très intéressantes. Donc, il y a un médicament, la dexamethasone, qui permet de réduire la durée d'hospitalisation et la mortalité chez les personnes qui sont déjà très malades. Ce n'est pas une chose à prendre pour les gens qui ne sont pas très malades, mais les gens qui sont très malades et hospitalisés. Donc, il y a déjà ce traitement. Ce n'est pas un traitement spécifique pour le virus, mais c'est un traitement qui lutte contre une inflammation trop agressive.
On parle de quel médicament? Excusez-moi, j'ai mal saisi le nom.
Le dexamethasone, en traitement hospitalier.
OK. Et ensuite?
Uniquement. Pas en traitement pour les gens qui ne sont pas très malades.
Non, je comprends.
Et il y a un autre antiviral qui s'appelle Remdesivir, qui est un traitement qui a, pour le moment, il y a une étude qui a démontré qu'il y a une légère baisse de la durée d'hospitalisation encore, de 15 jours à 11 jours, pour ce traitement-là, dans un contexte spécifique dans lequel les études ont été faites, bien sûr. Après, il faut voir si ça se répète dans les différents contextes.
S'il y a une récurrence dans la validité du traitement, oui.
Voilà, donc tout ça s'est évalué en cours de route. Donc il y a déjà des lueurs d'espoir. Il n'y a pas de traitement spécifique qui va complètement maîtriser la maladie, mais des avancées de traitement qui permettent de réduire la durée de maladie, la durée d'hospitalisation et peut-être même le nombre de décès. Et donc ce sont déjà des espoirs, ce sont déjà des avancées qui sont là depuis très peu de temps, hein, depuis quelques semaines au maximum. Mm-hmm. Mais il y a des centaines de molécules qui sont dans des études cliniques comme ça. Et donc ça prend le temps d'aussi d'avoir assez de patients, hein, parce que bon, par exemple, en Europe, c'est maintenant plus difficile de faire les études parce qu'il y a beaucoup moins de patients. Mmh. Et donc, il faut que la recherche aussi suit, si on peut ainsi dire, la pandémie. Et c'est pour ça que l'OMS sert un rôle très spécifique et très important, parce que nous avons 170 bureaux pays, et puis nous travaillons avec tous les pays membres, donc plus de 200 pays membres. Et comme ça, on peut travailler avec les chercheurs de tous ces pays-là, et permettre de les aider à avancer dans leur programme de recherche, là où l'épidémie sévit.
Merci beaucoup, Dr. Rosamund Lewis, médecin spécialiste en santé publique du programme des urgences sanitaires de l'OMS. Merci de votre participation et de vos éclairages.
De rien, merci à vous.
Merci, au revoir. Bonne poursuite en Suisse. On va voir ce qui va arriver de tout cela. Au retour de la pause, on va parler des États-Unis. On voyage beaucoup aujourd'hui. On va parler à un médecin qui va nous parler de l'attitude de la population américaine en rapport avec cette pandémie-là, où on voit des images, des fois, à l'information ou aux nouvelles. Et puis là, on se dit, mais mon Dieu, où ont-ils la tête? Ce comportement-là est un peu excessif, voire même dangereux et à risque. On va parler au docteur Thierry Jacquemin tout de suite au retour de la pause.